Notre invité ce matin, il a dévoilé sa candidature ce mardi, c'est Rémi Audoux. Bonjour.
Bonjour.
Maire de Lettré, ancien conseiller départemental des Hautes-Alpes. Désormais, vous êtes donc candidat pour l'heure sans étiquette. Et j'insiste sur pour l'heure parce que vous voulez réaliser l'union des gauches. Mais elle semble déjà être faite dans les Hautes-Alpes, en tout cas en partie entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. On va revenir sur ce point localement. Tout d'abord, j'allais dire votre avis, en tout cas votre analyse de ces élections présidentielles, et notamment dans les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, seul département à avoir résisté au Rassemblement national. Petite résistance, mais résistance quand même.
Oui, il y a une grande distinction au niveau national entre un vote urbain, entre un vote de population plus aisée qui ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, plus à mon avis que par une réelle adhésion, sauf pour une partie de la population qui est inférieure à 25%.
Hein, les 28% vote de mécontentement.
Il y a eu un grand vote de mécontentement parce que ça fait quand même des années que les populations rurales ont été méprisées par le gouvernement central. Ça fait des années que tout est organisé au niveau de l'État et calqué comme si toutes les régions de France étaient l'Île-de-France. Je suis désolé, la région PACA, ce n'est pas l'Île-de-France, et les Hautes-Alpes, même au sein d'une même région, les Hautes-Alpes, ce n'est pas les Bouches-du-Rhône. Donc le fait d'avoir un tel mépris affiché pour les populations rurales et pour le fait de laisser les populations des territoires ruraux, de montagne, s'organiser comme elles le souhaitent, ça pousse vers de la colère.
C'est quoi la loi NOTRe encore qui bloque selon vous? Parce que la loi NOTRe, j'allais dire, c'est une loi de gauche et de droite. De droite et de gauche.
C'est la loi NOTRe et puis toutes les lois qui ont précédé, la loi RCT et les lois qui ont suivi. Si on prend par exemple la compétence eau, ça fait quand même, c'est la première fois que je vois ça, des maires qui font grève. Des maires qui font grève parce qu'ils disent arrêtez maintenant de ne pas nous laisser nous organiser et de nous mettre des bâtons dans les roues pour la compétence eau. Moi je vois cette année, mon budget c'est assez ridicule, mon budget annexe de l'eau, c'est à peu près 40 000 euros comme budget, va être envoyé à la Cour régionale des comptes pour insincérité des recettes et dépenses. Pourquoi? Parce que j'ai mis 540 euros en investissement. Et à cause de ces 540 euros en investissement, que la direction des finances publiques locales ne veut pas qu'on puisse mettre en investissement, je me retrouve à la CRC. Alors ça m'amuse beaucoup, ça me fait absolument pas peur, mais vous voyez à quoi on en est réduit. Non pas s'occuper des vrais problèmes des Français, on est envoyé dans la Cour régionale des comptes.
Vous pensez vraiment que les Français ont voté par rapport à une compétence eau dont ils n'ont absolument pas connaissance?
Pas seulement, non, c'est un ensemble de faits, mais ça explique la distinction entre un vote rural populaire, qui s'est tourné vers un vote de colère, qui pour cette élection a été incarné par Marine Le Pen, malheureusement, mais c'est pas une fatalité.
Jean-Luc Mélenchon ?
Jean-Luc Mélenchon au premier tour, effectivement. Mais Jean-Luc Mélenchon, ça a été un vote d'une partie du rural, effectivement, mais aussi des milieux urbains défavorisés.
La gauche aujourd'hui est mélenchoniste et insoumise ?
Non, alors actuellement, alors on voit d'ailleurs que chaque en fait parti politique a ses élections fétiches. Aux dernières européennes de 2019, c'est pas si vieux, c'était les écologistes qui étaient largement en tête. Et la France insoumise faisait moins de 10%. Là, c'est présidentiel, c'est la France insoumise parce que Mélenchon a réussi à faire une meilleure campagne, qui est sortie en tête, et sur les derniers jours, s'est cristallisé autour de lui un vote utile. Mais c'est à un instant T, ça veut pas dire que cette photographie qu'on a eue au moment des présidentielles, c'est ce qui va se passer pour les années à venir, dans les élections à venir et dans l'avenir de la gauche.
Vous êtes à gauche dans l'échiquier politique. Est-ce que vous avez voté utile?
J'ai voté utile au premier tour, oui.
Donc vous avez voté Jean-Luc Mélenchon?
Au premier tour, oui.
À contre-cœur?
Je voulais absolument éviter ce deuxième tour Macron-Le Pen parce que je savais quelle serait l'issue et la réélection d'Emmanuel Macron va provoquer encore plus de colère. Et ce que je ne veux pas, c'est que cette colère, elle se transforme en violence. Je pense que la colère, c'est une bonne chose parce que face aux injustices que la société, notamment les plus jeunes, vivent actuellement, c'est normal qu'il y ait de la colère. C'est normal d'être en colère quand il y a des injustices et quand il y a autant de mépris de la part d'une classe dirigeante. Maintenant, cette colère, il faut la motiver. Et la motiver, ça veut dire qu'il faut qu'elle trouve une façon de s'exprimer. Vous savez, quand il y a un peuple qui souffre, il y a deux possibilités si on regarde l'histoire. Lorsqu'il y a eu la crise de 29, on a eu aux États-Unis un président social-démocrate, Roosevelt, qui a été élu. La colère s'est déversée vers des solutions concrètes qui ont permis d'améliorer la vie des Américains. En Allemagne, la colère s'est exprimée vers Adolf Hitler, qui a été élu chancelier. Donc, il n'y a pas de fatalité à ce qu'une colère du peuple se traduise vers l'élection d'un gouvernement d'extrême droite. On peut avoir une colère qui peut se motiver et qui peut changer la vie des gens avec des idées de gauche, humanistes, progressistes.
Enfin, Emmanuel Macron a été élu. Quand même.
Bien sûr qu'il a été élu. Je ne remets pas du tout en cause la légitimité de son élection. Il a été élu, il est président pour 5 ans. Maintenant, ce que je crains, c'est que son élection, s'il continue, et à mon avis, il va continuer parce qu'il reste dans les mêmes cercles de personnes, ça va conduire à de plus en plus de violence. Et tout le monde le dit et le craint autour de moi. S'il y a encore ce mépris affiché, les gilets jaunes qu'on a eu en 2018, on va avoir une nouvelle version, en beaucoup plus violente, dans les années qui viennent.
Parlons donc de local, je le disais, hein, l'union des gauches, d'une certaine gauche, est en train de se faire. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont trouvé un accord, rejoint hier par le Parti communiste. Déjà, la distribution des circonscriptions dans les Alpes du Sud semble se faire du côté du 04. Première circonscription, c'est Delphine Bagary. Députée sortante, hein, ancienne République En Marche, qui désormais se présente sous la bannière des Nouveaux Démocrates, soutenue par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Et du côté des Hautes-Alpes, de votre circonscription, la première, c'est Michel Philippot pour la France Insoumise qui semble être soutenu aujourd'hui. Pourtant, vous, aujourd'hui, vous vous présentez en voulant faire cette coalition des gauches. C'est une coalition ou une dissidence, là ?
C'est pas une dissidence. Il y a eu un accord national entre deux partis au moment de l'annonce de ces deux candidatures, entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, rejoint depuis hier par le Parti communiste. Il y a encore des discussions avec le Parti socialiste, donc rien n'est figé pour le moment. Et de plus, il y a un accord, comme vous l'avez dit, national. Mais je pense qu'il faut qu'on ait l'intelligence de comprendre, c'est ce que j'expliquais, que tout ne doit pas se décider depuis Paris. On a des spécificités dans nos circonscriptions, dans nos territoires ruraux, qui font que, dans le cadre d'un accord national qui va être une nécessité pour qu'il puisse y avoir l'émergence d'une alternative progressiste et humaniste à la politique d'Emmanuel Macron, il faut qu'on ait après l'intelligence sur nos territoires de réfléchir, de travailler entre nous pour se dire, bon, maintenant, dans le cadre de cette union, qui est le meilleur candidat pour gagner ? Parce que l'union n'est pas une condition suffisante pour la victoire. C'est pas parce qu'il y aura une union de la gauche que la gauche aura la majorité à l'Assemblée nationale.
Et pour vous, Michel Philippot n'est pas le plus à même pour gagner ?
Il faut qu'on en discute vraiment entre nous. Il faut qu'on voit qui peut réaliser une union la plus large possible, la plus forte possible. Il y a eu, de ces dernières années, des dissensions très fortes entre les partis de gauche, entre le PS et les Verts, les communistes, la France insoumise. Il y a eu des divisions très fortes. Moi, je suis encarté dans aucun parti. Même si j'ai une sensibilité de gauche que j'ai jamais cachée, j'avais été adhérent au Parti Socialiste jusqu'en 2011, donc j'ai cette sensibilité de gauche. Pour autant, j'ai jamais été dans ces combats entre partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut gommer les partis politiques. Hein. Encore une fois, les partis politiques sont très importants pour la démocratie. Et moi, si je suis élu député, je parlerai régulièrement avec tous les partis, bien sûr de gauche, puisque ça aura été la famille politique qui m'ont rapporté, mais aussi avec les partis de droite pour discuter avec eux. Ça ne veut pas dire que je serai d'accord avec eux et que je voterai ce qu'ils me demanderaient de voter, mais c'est important de les entendre, d'entendre leurs arguments et pour essayer d'avoir une concorde entre les Français.
Sauf que cet accord national se fait sur des points précis, programmatiques, notamment un SMIC à 1 400 €, d'autres points aussi. Si vous êtes en scénario fiction, j'allais dire, si vous êtes le représentant de cette union des gauches, il faudra défendre quand même ces points programmatiques, vous n'aurez pas le choix.
Alors, l'union des gauches, j'attends déjà encore une fois de voir quel sera l'accord national qui sera porté par l'ensemble des partis de gauche, s'il y a un accord entre tous les partis de gauche. Et après, ces propositions, oui, s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, il faudra bien les soutenir. Il faudra voir comment est-ce qu'on les soutient. Par exemple, le SMIC à 1 400 €, ça va être une nécessité. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'actuellement, des gens qui travaillent à temps plein n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ce n'est pas normal que dans un pays comme la France, où on n'a jamais produit autant de richesses qu'on en produit actuellement, quand on travaille à temps plein, on n'arrive pas à finir son mois en n'étant pas à découvert. Donc là, il y a quelque chose à faire et qui ne doit pas passer seulement par des allocations de substitution. Je veux dire, les primes que met Macron chaque mois, c'est une chose, mais on ne doit pas vivre là-dessus. Ça doit vraiment être ponctuel quand il y a des problèmes d'inflation. On ne peut pas compter sur ces primes pour finir les mois à chaque fois. Il faut qu'on ait quand même une visibilité.
Mais on dit quoi aux autres salariés qui, eux, sont un tout petit peu au-dessus du SMIC et qui ne seront pas forcément revalorisés ? C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein, avec cette revalorisation de 5% du SMIC, mais les autres, ils n'auront rien.
Non. Les autres, il faut aussi qu'ils progressent par des conventions de branche, d'une part, ou par des négociations au sein des entreprises.
Vous savez très bien que, justement, quand ça se passe au niveau des entreprises, ça n'est pas fait.
Ben ça peut le faire, parce que les dégrèvements de charges de cotisations sociales et patronales, elles se font en fonction d'un pourcentage du SMIC. C'est entre 100 et 160%. Donc, quand le SMIC augmente, les dégrèvements de charges augmentent également pour les salaires. Donc, ça peut permettre, en augmentant le SMIC, d'augmenter le niveau de salaire qui permet d'être éligible à ces dégrèvements de cotisations sociales et patronales.
Je prends un exemple concret, les journalistes. Journalistes en radio dépendent d'un barème qui est fixé notamment par le SNJ. Ce barème est un tout petit peu au-dessus du SMIC, un tout petit peu. Et pour autant, ce barème ne sera pas réévalué, il ne l'a pas été depuis 2017. C'est pour ça que je vous disais, ces accords de branche dans les entreprises, il faut avoir une sacrée confiance quand même, pour que ce soit fait, pour que ce soit établi. Ça ne peut pas fonctionner comme ça dans la durée.
Non, mais il faut que dans les conventions de branche, les syndicats commencent maintenant à parler non plus en fonction de montant, mais en fonction du niveau du SMIC. Il faut non plus qu'on mette un niveau, mais qu'on mette un niveau de SMIC. Et comme ça, dès que le SMIC est réévalué, ça permet de réévaluer les salaires de toutes les professions. Parce que le SMIC, rappelons quand même un peu, il est fonction de l'inflation. Et l'inflation va toucher toutes les professions. Quand le prix du blé, le prix des pâtes, le prix de l'huile prend 6 à 7%, il faut que les salaires puissent suivre derrière. C'est le but. Mais pas seulement les salaires au niveau du SMIC. Tous les salaires, parce que tout le monde consomme des biens d'alimentation.
Et comment les patrons peuvent suivre? Parce que forcément, ça coûte plus cher.
Ça coûte plus cher, oui, mais là du coup, c'est ce que je dis, c'est que d'une part, il va y avoir les dégrèvements de cotisations sociales et patronales qui suivent le niveau du SMIC, premier point. Et deuxième point, il y a aussi à revoir la répartition de la valeur ajoutée. Là, ça fait quand même des années que la part des profits dans la répartition de la valeur ajoutée augmente, alors que celle des salaires diminue. Il faut quand même commencer à revoir un peu les choses. Alors, je ne dis pas que tous les patrons sont riches. Hein. Enfin, tous les patrons ne sont pas des Donald Trump ou des Elon Musk. Mais là encore, les petites entreprises peuvent être aidées par l'État. On peut leur mettre en place des dégrèvements de cotisations sociales et patronales, mais également, si besoin, des diminutions de TVA pour certains produits, notamment lorsqu'il y a des tensions sur les prix des matières premières. Dans ce cas-là, on peut aider des entreprises comme ça, mais oui, pour les plus grosses entreprises, il faudra qu'il y ait un effort à faire sur les profits.
Vous inscrivez votre candidature dans des valeurs humanistes, progressistes, et surtout, ce que vous avez indiqué, pour ne pas faire réélire Pascal Boyer, député La République En Marche. Alors, tout d'abord, c'est quoi? C'est une candidature contre ou une candidature pour?
Alors, les deux. Les deux, c'est une candidature d'abord contre parce qu'on voit déjà ce qu'il ne faut pas refaire. On voit déjà que redonner une majorité à l'Assemblée nationale à En Marche, une majorité absolue, ça conduirait, comme je le disais, vers une violence contre le peuple, avec des politiques de plus en plus restrictives, d'une part, des libertés, et d'autre part, une politique sociale extrêmement violente avec la retraite à 65 ans. Je m'opposerai, si je suis élu avec force, à la retraite à 65 ans parce que je trouve particulièrement anormal que quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans ou à 19 ans doivent travailler 47 ans pour avoir droit à une retraite à taux plein. Alors que quelqu'un comme moi, qui a eu la chance de pouvoir faire des études et avoir un métier moins pénible, devra partir seulement au bout de 42 ou 43 ans de travail. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Deuxième point, c'est une candidature contre, mais comme je le disais, c'est une candidature de colère. Mais la colère, il faut ensuite qu'elle débouche sur quelque chose. On ne peut pas seulement être en colère et voir ce qui se passe après. Il faut travailler un projet. Donc c'est une candidature ensuite qui est pour. Une candidature qui est pour l'ensemble des droits et des libertés individuelles. Moi, je veux créer de nouveaux droits et je veux sanctuariser ce qui existe déjà. On voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec une remise en cause violente du droit à l'avortement. Si je suis élu député, je pousserai pour qu'il y ait une proposition de loi constitutionnelle mettant dans la Constitution le droit des femmes à disposer de leur corps afin que le droit à l'avortement puisse être de cette façon inscrit dans la Constitution et qu'une majorité éventuellement élue plus tard conservatrice ne puisse pas remettre en cause ce droit. Je veux également porter une loi pour le droit à mourir dans la dignité. Actuellement, je trouve que c'est pas normal lorsque l'on a une maladie incurable et qui provoque des souffrances, que les gens soient obligés d'aller en Belgique, soient obligés d'aller en Suisse pour avoir recours à l'euthanasie. Et je trouve anormal qu'il n'y ait pas plus de services de soins palliatifs notamment dans les territoires ruraux, pour permettre aux gens en fin de vie qui perdent leur autonomie de ne pas vivre dans des conditions dignes.
Rémi Audoux, merci d'avoir été avec nous ce matin dans le 8.30. Candidat donc pour les législatives sur la première circonscription des Hautes-Alpes, une candidature pour l'heure sans étiquette, mais en tout cas, on l'a bien compris, vous voulez réaliser cette union des gauches. Merci beaucoup.
Merci à vous.